nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, depuis dimanche dernier, sont passés sous nos yeux les différents témoins de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Aux évangiles de chacune des messes de cette semaine pascale qui vient de s'écouler, les principales apparitions de notre Seigneur nous ont été relatées. Nous avons vu ainsi se rendre au tombeau les saintes femmes, Sainte Marie-Madeleine seule, Saint Pierre et Saint Jean, et la Sainte Église nous a fait relire et méditer les principales apparitions de notre Seigneur qui ont été transcrites dans les saints évangiles. Cependant, si nous avons été bien attentifs au récit de ces apparitions, nous avons dû être surpris. Nous avons dû constater une absence, et une absence de taille. Il manque quelqu'un dans ces apparitions. En effet, pourquoi aucune mention n'est faite de la Sainte Vierge dans les apparitions relatées dans le Saint-Évangile de notre Seigneur à ses disciples ou aux saintes femmes? Il n'est dit nulle part dans le Saint-Évangile que Marie soit allée au tombeau ni que Jésus l'ait visité. Aucun mot. Cependant, si Notre-Dame n'a pas visité le tombeau, ce n'est pas par manque d'amour. Cela ne peut être. Et puis, peut-on imaginer que notre Seigneur n'ait pas visité sa propre mère, alors qu'il a consolé Sainte Marie-Madeleine et les saintes femmes mères des apôtres? Bien sûr, on peut dire que notre Seigneur, au tombeau, a pris une deuxième naissance, une nouvelle naissance qui est toute de gloire, sa première naissance, comme homme dans le sein de la Vierge Marie, avait été une naissance à une vie obscure, souffrante et mortelle. Alors que dans cette deuxième naissance, à la sortie du tombeau, il renaît comme homme Dieu à une vie incorruptible, impassible et immortelle. À la première naissance, Notre-Dame est apparue seule. Le Père Céleste s'est caché en elle. Par contre, à cette deuxième naissance, le Père éternel agit directement. Il communique à son Fils, en son humanité, une vie toute divine, qui est un écoulement de la vie même de Dieu. Aussi, objection, cette vie nouvelle n'aurait-elle pas pour conséquence de rendre Jésus étranger à Marie? Notre Seigneur a en effet rejeté dans cette seconde vie la vie souffrante qu'il avait puisée dans le sein de la Vierge Marie. Son Père vient de le revêtir d'une vie supérieure et est tellement éternellement bienheureuse. Mais comment, même en cette vie nouvelle, notre Seigneur peut-il être étranger à Marie? Dans tout son être, il est fils de Marie. Non, assurément, il continue, il sera toujours le Fils de la Sainte Vierge. Cette vie nouvelle n'a pas pour conséquence de le rendre étranger à Marie. Même sous une forme glorieuse, il continue de mener cette vie humaine qu'il a puisée dans le sein de la Vierge Marie. Le corps de notre Seigneur est maintenant transfiguré, mais c'est toujours un corps humain. Et c'est celui dont Marie a fourni tous les éléments. Par suite, s'il fait descendre dans son corps la clarté qu'il possède de toute éternité comme Fils de Dieu, notre Seigneur ne cesse pas d'être le Fils de Marie. Il fallait donc, et c'est notre premier motif, que notre Seigneur apparût à sa mère, car il est son Fils. Deuxième motif, Notre-Dame a participé très intimement à tous les mystères de la vie de son Fils. Plus que personne, elle a été unie en particulier à sa passion. Elle est descendue jusqu'à des profondeurs de souffrance inimaginables. Un glaive de douleur a transpercé son cœur. Et ce n'est pas une image, c'est une réalité très profonde. L'âme de la Sainte Vierge a été déchirée par la passion de son Fils. Elle est Notre-Dame des douleurs. Et en conséquence, elle avait droit, la première, au bienfait de la résurrection. Elle avait droit aux grâces par lesquelles elle est passée de la mort à la vie, car en s'unissant au sacrifice de son Fils, elle est morte en quelque sorte avec lui. Dans son esprit, elle l'a suivi dans la mort. Elle l'a suivi dans le tombeau. Il fallait donc aussi qu'elle le suive dans sa résurrection. Et la première, elle qui avait été aux premières loges, au pied de la croix, non seulement de corps, mais aussi d'esprit. Il y a comme une nécessité à ce que Notre-Dame bénéficie d'une apparition de notre Seigneur. Il ne suffisait pas qu'elle se contentât d'apprendre par les saintes femmes ou par les apôtres la résurrection de son Fils, même si elle n'en a jamais douté. Il fallait que ce soit lui en personne qui vienne le lui annoncer. Et comment notre Seigneur ressuscité aurait-il pu contenir cet amour de prédilection qui l'emporte vers sa mère, elle qu'il chérit au-dessus de tous les anges et de tous les bienheureux réunis? Aussi, il est bien difficile d'imaginer qu'aussitôt ressuscité, aussitôt il ne se montre à elle. Comment retracer cette entrevue? Comment décrire l'adoration de Notre-Dame? Que dire des témoignages d'amour qu'elle reçut de son Fils? Assurément, bien grande fut la joie de Notre-Dame. Jésus lui apparaît, dit saint Albert le Grand, non pas pour lui apprendre la résurrection, elle n'en a jamais douté, mais pour remplir son cœur de joie. Et en effet, quelle joie dut-elle ressentir à la vue de son Fils revêtu de gloire et rempli d'une vie immortelle, lui qu'elle avait vu mourir sur la croix, abreuvé d'avanie, d'humiliation pendant sa passion. Et aussi que de grâces nouvelles vinrent embellir son âme. Comme à chacun des mystères de la vie de son Fils, Notre-Dame a reçu un accroissement merveilleux de grâce en son âme. Et il en fut certainement de même au jour de la résurrection. Et dans une très grande mesure, son Fils en venait, en effet, venait de vaincre la mort, le diable, l'enfer, le péché. Et il a certainement fait bénéficier Notre-Dame de cette victoire. Qui peut parler des choses si grandes qui se sont passées en Marie, voire même les soupçonner, lors de cette apparition? Pourquoi alors les évangélistes ne nous ont-ils pas dit un mot de cette apparition? Pourquoi les livres saints se taisent? Le but était d'affermir et d'établir dans l'Église naissante la foi en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était le point de controverse avec les Juifs. Les évangélistes ont donc mis en avant des faits connus, publics, dont eux-mêmes avaient été les acteurs et les témoins. Le bon Dieu a voulu manifester sa résurrection non pas à tout le peuple, mais seulement à quelques témoins. Les apôtres non seulement virent Jésus et le touchèrent, mais encore ils mangèrent et burent avec lui. Et lorsqu'ils annoncent la résurrection de Jésus au peuple, ce sont des faits qu'ils annoncent, des faits qui leur sont personnels, qui ont créé l'évidence dans leur propre esprit. Si nous considérons en particulier chacun de ces faits, il y a à chaque fois quelque chose de particulièrement touchant. Marie-Madeleine est emportée par l'amour, égarée par la douleur. Les disciples d'Emmaüs jettent un regard de tristesse sur leurs espérances trop humaines, brisées par la mort de Jésus. Saint Thomas, c'est l'évangile d'aujourd'hui, exige une preuve personnelle et palpable. La résurrection est ainsi mise progressivement en lumière comme si nous assistions à un lever de soleil. L'ignorance et l'hésitation même des apôtres font ressortir la vérité. Ils n'ont rien caché de leurs doutes. Ce sont de vrais témoins. Ils étaient là. Et c'est ce qui en fait des témoins vraiment crédibles. Le récit évangélique ne cherche pas à aller plus loin. Il s'arrête au fait personnel des témoins que Dieu s'est choisi pour sa résurrection. L'apparition à la Sainte Vierge, elle, a un caractère trop intime pour entrer dans ce cadre. Et c'est pourquoi Dieu a voulu la voiler d'un mystère, la cacher, la mettre sous le sceau du mystère. La foi des apôtres et des saintes femmes était incertaine, vacillante. La foi de Notre-Dame, elle, est restée inébranlable. Elle savait très bien qu'il était nécessaire que le Christ souffrît pour qu'il entrât dans sa gloire. Elle connaissait parfaitement toutes les prédictions et les figures de l'Ancien Testament concernant notre Seigneur. Et alors que les saintes femmes courent au tombeau, s'inquiètent de la pierre qui le couvre, déjà, Notre-Dame a vu son Fils ressuscité. Déjà, elle l'a adoré. Déjà, elle a fait ses Pâques. Pourquoi, encore une fois, Notre-Dame n'a-t-elle pas rendu témoignage, alors ? Pourquoi n'a-t-elle rien dit ? Ce n'était pas dans le cadre de Dieu, dans le plan de Dieu. Le rôle de Notre-Dame est un rôle tout de silence. Si la Vierge Marie elle-même avait raconté ce qu'elle avait vu, on aurait cru que son amour maternel eût égaré, faussé son imagination. Comme toujours, le grand amour qu'elle porte à son Fils est accompagné d'humilité, d'abnégation, de silence. Marie laisse à ceux qui en ont reçu mission la gloire d'annoncer la résurrection. De plus, son témoignage eut empêché ce va-et-vient au tombeau, qui a permis la constatation authentique de l'état de la sépulture, ce contraste si frappant d'âme hésitante que la vérité saisit et convainc. Nous n'aurions pas cette scène décrite avec toute sa fraîcheur de Sainte Marie-Madeleine voulant emporter Jésus, prenant celui-ci pour un jardinier. Ça ne s'invente pas. Et la preuve publique de la résurrection aurait perdu de son relief. Aussi, à avoir tenté de scruter cette première apparition de notre Seigneur à sa très sainte mère, il nous sera bon, pour nous, de renouveler dans nos cœurs des sentiments de réelle dévotion envers Notre-Dame, en particulier de renouveler nos résolutions de bien dire notre chapelet chaque jour, les 5 dizaines, bien méditer, un cœur à cœur avec Notre-Dame. Que le souvenir aussi des joies immenses de son cœur au jour de la résurrection nous remplisse nous-mêmes de joie, alors que nous traversons une vallée si riche en larmes. Et nous participerons davantage à ces joies de Notre-Dame, à mesure aussi que nous participerons à la victoire de son Fils sur l'enfer et sur le monde, sur les maximes du monde, sur les modes du monde. C'est dans cette mesure que nous bénéficierons des joies de la résurrection. Sainte Vierge Marie, arrachez-nous donc à la puissance séductrice de ce monde, dont le diable est le prince, pour nous faire goûter dès maintenant les joies du ciel. Dignare me laudarete virgo sacrata, d'amici virtutem contra hostes tuos. Donnez-moi une bouche, Sainte Vierge Marie, pour que je puisse vous louer. Donnez-moi puissance contre vos ennemis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.